devait pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Dans cette émission du mardi 2 avril 2024, nous vous proposons d'écouter une grande partie de la présentation du livre de Laura Wojcik et Anne Clerval, Les naufragés du Grand Paris. Cette présentation s'est tenue le 12 mars au bar-restaurant Le Lieu-dit dans le 20e arrondissement de Paris.
Bienvenue, je pense qu'on va commencer. Bonsoir, alors moi je vais juste contenter de poser quelques questions aux auteurs et puis après je pense que la discussion s'engagera directement avec la salle si vous avez des questions. Donc je suis Gwenaëlle Bourdon, je suis collègue de Laura puisqu'on travaille toutes les deux au Parisien. Et je vais du coup peut-être commencer par vous demander de vous présenter puisque vous êtes toutes les deux les auteurs, les autrices de ce livre « Les naufragés du Grand Paris Express ».
Bah, bonsoir, moi je suis Laura Wojcik, je suis journaliste au Parisien, au service vidéo.
Donc Anne Clerval, je suis enseignante-chercheuse en géographie à l'Université de Marne-la-Vallée, qui s'appelle maintenant Gustave Eiffel. Je suis spécialiste de la gentrification. Il y a 10 ans, j'ai écrit un livre déjà, Paris sans le peuple, sur la gentrification à Paris. Et donc là, on continue sur le Grand Paris.
Alors peut-être que pour commencer, vous pourriez déjà nous expliquer comment est venue l'idée de ce livre, Laura.
C'était en 2018, ou courant 2017, et je travaillais pile en face de la future gare Saint-Denis-Pleyel, qui est le futur hub, comme ils aiment bien dire, du Grand Paris Express. Donc ce sera l'interconnexion entre beaucoup de lignes de ce futur métro. Et en fait, tout simplement, moi je travaillais là, j'y allais à vélo tous les matins, et j'ai commencé à voir ce quartier complètement changé. Devenir méconnaissable sur des petites choses, en fait, des petits trajets du quotidien que moi je faisais à vélo et je pouvais plus les faire et on nous mettait des barrières et ça devenait juste impossible de pratiquer ce quartier. Et je me suis dit, mais en fait, moi je travaille juste ici, j'ai juste mes petites contraintes de venir à vélo. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui ont toujours connu ce quartier et qui l'habitent et qui l'aiment? Et du coup, je me suis dit, ben, y a peut-être quelque chose à faire. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la situation à Saint-Denis-Pleyel était la même à beaucoup d'endroits du Grand Paris, enfin des futures gares du Grand Paris. Il se trouve qu'il y en a 68, puisque en cherchant tout simplement sur Google ce qui se passait pour ces quartiers de gare, on trouvait rien. Et ben peut-être qu'il y avait quelque chose à faire et des personnes à interroger et des histoires à raconter. Donc je voulais juste vendre un papier. Et vu que je suis un peu perfectionniste, j'ai commencé à chercher d'autres histoires, d'autres voix. Et en fait, ce projet qui était juste censé être un seul papier, je ne l'ai jamais vendu. J'ai passé 5 ans et demi dessus. Donc voilà.
Alors ça, c'est le point de départ. D'abord, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de comprendre comment vous avez travaillé toutes les deux.
Comment as-tu rejoint le projet, Anne ?
Donc, fin 2018, Laura me contacte. Comme moi, ça m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, cette question de déplacement des gens à cause du Grand Paris dans les banlieues, ça rejoignait mes interrogations sur le rôle des politiques publiques dans la gentrification. Aller au-delà aussi des histoires individuelles, mais voir la cohérence du projet. Et après, c'est aussi ensemble que du coup, on a pu aussi faire un livre.
J'ai tout de suite compris que ce projet, il était... Enfin, que ce projet de Grand Paris Express, il était à l'intersection d'énormément de dossiers. Je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un qui avait la légitimité académique et qui avait fait des travaux là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai contacté Anne. Et il se trouve qu'au lieu de juste répondre vaguement à quelques questions, Anne m'a accompagnée sur le terrain à plein de reprises et aussi à utiliser cette matière de paroles des gens, de leur profil socio-économique, de tout ce qu'ils avaient à nous dire, pour pouvoir en faire quelque chose d'assez solide, de prendre de la hauteur, ce qu'un journaliste n'est pas payé pour faire, en fait. Enfin, parfois, ils le font, mais moi, je trouve que c'est intéressant, cette conjonction entre la recherche et le terrain journalistique et l'enquête journalistique.
En fait, entre une chercheuse et une journaliste, on dirait qu'on fait des choses très proches. Enfin, on va faire des interviews. Nous, on appelle ça des entretiens, mais bon, ça revient quand même au même. On va rencontrer des gens. On fait des recherches documentaires et on écrit. Enfin, on fait quand même des choses assez proches, mais en fait, on ne le fait pas de la même manière. Quand on a fait des enquêtes ensemble, c'est vrai que moi, j'ajoutais des questions, notamment sur les caractéristiques sociales des gens. Quand tu parles d'experte, moi, je ne me pense pas comme experte. Je suis une chercheuse. Et c'est-à-dire qu'on a plutôt, c'est plutôt des méthodes pour établir la preuve, pour essayer de démontrer ce qu'on avance.
Et ça m'a forcé, moi, en tant que journaliste, à bosser un peu différemment parce que nous, les journalistes, on n'est pas sans arrêt en train de transcrire au mot près et à l'hésitation près tout ce qu'on a en face de nous.
Alors, le titre le dit, hein, vous vous êtes intéressé aux naufragés du Grand Paris Express, donc vous donnez des visages très concrets. Mais peut-être qu'il faut aussi rappeler ce que c'est le Grand Paris Express.
Alors, le Grand Paris Express, c'est tout simplement à la base un projet de ligne de métro supplémentaire. Donc, vous connaissez les 14 lignes de métro à Paris. Donc, il va y avoir l'extension de la ligne 11, l'extension de la ligne 14, mais aussi les nouvelles lignes 15, 16, 17 et 18. Et en fait, c'est un projet qui n'est pas exactement dans la veine du RER, qui était plus... des lignes qui partaient un petit peu en soleil autour de Paris vers la Grande Couronne. Et là, le Grand Paris Express, en fait, ça fait des circulaires, des rocades autour de Paris, c'est-à-dire que... Des tangentielles. C'est-à-dire que pour faire, un vrai exemple qui existe, pour faire Champigny-Aubervilliers, on n'est plus obligé de repasser forcément par Paris ou de prendre des bus interminables. Mais du coup, on va pouvoir relier les banlieues entre elles. Le projet, c'était aussi de pouvoir éviter Paris. C'est-à-dire que maintenant aussi, on va pouvoir faire Aubervilliers-La Défense sans avoir à passer par Châtelet-Léal. Mais dans le livre, vous comprendrez qu'il y a énormément d'autres projets, notamment de logement, de développement économique, de gentrification, qui s'opèrent autour de ces nouvelles lignes de métro.
Oui, effectivement, en lisant le livre, on découvre aussi d'autres aspects, y compris les raisons qui font qu'on a dessiné certaines lignes de telle ou telle façon pour relier aussi des pôles économiques, des clusters, et pas uniquement aider les habitants à circuler librement dans la région parisienne. Il y a un certain nombre de passages qui sont extrêmement développés, des rencontres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le travail que vous avez fait dans l'écriture de ce livre ?
Il y a un petit passage sur, un long passage quand même, sur les personnes mal logées de Saint-Denis-Pleyel qui vivaient juste un enfer absolu pile en face de la future gare, à quelques dizaines de mètres. Ces gens-là, le logement dans lequel ils vivaient, c'était censé être un hôtel social, exploité par une marchande de sommeil. Le bâtiment dans lequel ils vivaient pendant très longtemps, personne n'en avait rien à faire parce que ça valait peanuts. Et du jour au lendemain, en fait, quand on est stratégiquement placé en face d'une future gare qui est renommée le Châtelet Léal du 21e siècle, il y a des investisseurs immobiliers qui arrivent de très loin et qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent et à se débarrasser des habitants très très vite. Donc c'est ce qui s'est passé. C'était un enfer total sur Terre, la situation de ces personnes, des familles avec des enfants, des bébés qui vivaient dans des conditions... Enfin, en tant que journaliste qui bosse sur Paris et sa banlieue, ça fait partie des terrains les plus difficiles qu'on peut faire. C'est qu'on rentre chez soi, on se dit, mais en fait, je vis dans des... Enfin, j'ai une douche, j'ai un toilette, j'ai pas de punaise de lit, j'ai pas de l'eau de toilette des personnes au-dessus qui me coulent dessus quand je suis en train de faire cuire de l'eau. C'est des choses comme ça, mais pour le coup, c'était hyper marquant. Et de voir tout le développement économique, tout ce qui était mis en moyen pour faire pousser des logements flambant neufs juste à côté, on se disait, mais c'est pas possible, en fait, que ces gens-là soient au milieu de cet enfer alors qu'il y a... des sommes mirobolantes qui sont mises tout autour pour en faire un quartier génial avec un hôtel de luxe dans la tour Pleyel. Donc symboliquement, c'était super fort et je trouve que c'était hyper important qu'on laisse la parole à ces personnes-là qui vivaient dans des conditions dignes du 19e siècle. Éric Coquerel était passé pour s'occuper de ces gens-là, pour les aider politiquement. Et en fait, il avait comparé ça à du Zola.
Les personnes qui ont été expulsées de Saint-Denis-Pleyel, celles qui ont été couvertes par l'enquête, elles ont eu un hébergement d'urgence, ce qui n'était déjà pas gagné. Et elles sont toujours dans l'hébergement d'urgence à Perpète-les-Ouailles. Et elles n'ont toujours pas de logement social.
À travers le livre, on va pouvoir suivre justement ce qu'elles deviennent. Et ce qu'on peut comprendre là de ce que vous expliquez, c'est que le Grand Paris Express ne va pas profiter à ces personnes-là, bien qu'il y ait des constructions... qui pousse autour des futures gares, c'est pas aux plus démunis qui habitaient à proximité que ça va profiter. Alors là, il y a un certain nombre de lignes qui sont en voie d'achèvement et bientôt, a priori, le Grand Paris Express va circuler. Si ça profite pas aux plus démunis qui habitaient là avant, à qui ça pourrait profiter une fois que ce Grand Paris Express va circuler ?
Au-delà des témoignages de personnes, de ces naufragés, et donc ça c'est quand même un gros élément du livre, il y a aussi des éléments d'analyse plus macro. La thèse principale qu'on essaie de défendre là-dedans, c'est de montrer que ce projet de transport est aussi un projet d'aménagement à très très grande échelle, et qu'on peut le voir comme une politique de gentrification à part entière, de la gentrification planifiée, ce qui n'était pas la gentrification dans Paris, dans la ville de Paris, c'était une gentrification par le marché, avec plus ou moins d'appui des politiques publiques, mais sans en avoir vraiment besoin. Il y a de la gentrification spontanée en Seine-Saint-Denis, notamment dans les communes limitrophes, et ça passe par le marché, et notamment par l'aide des lignes de métro, c'est-à-dire quand c'est accessible en métro. Mais il y a aussi des espaces qui sont trop dévalorisés, soit parce que c'est des friches industrielles, soit parce que c'est des espaces juste à côté de grands ensembles, soit parce qu'il y a une mauvaise image, soit parce que c'est mal relié précisément pour se gentrifier spontanément par le marché. C'est-à-dire que c'est trop risqué comme investissement immobilier pour les promoteurs. Et donc, il faut une aide publique pour permettre d'accumuler la rente. Un des concepts clés qui est à comprendre ici, c'est le rent gap, le différentiel de rente foncière de Neil Smith, qui montre que quand il y a un espace très dévalorisé, mais quand même potentiellement valorisable, et là, c'est le cas, c'est cette Seine-Saint-Denis proche, surtout si elle devient bien reliée par des nouvelles gares, c'est une aubaine de profit immobilier. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour un promoteur immobilier, c'est beaucoup plus profitable d'investir à Saint-Denis-Pleyel que dans les banlieues aisées. Parce que la différence est plus importante, en fait, entre le prix du terrain, entre ce qu'on va vendre à la sortie, même si on vend moins cher que dans une banlieue aisée. C'est combler le rent gap qui permet de faire, qui est un moteur de gentrification. Simplement, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'il existe un rent gap que la gentrification se fait. Parfois, il faut une action publique. Et là, c'est une action de l'État. C'est pas juste une commune. C'est une action de l'État. C'est un projet qui est national et un investissement qui est énorme en termes d'aide publique pour permettre à des promoteurs immobiliers, donc à qui ça profite, notamment à des promoteurs immobiliers, à des futurs acquéreurs, à des municipalités qui veulent changer la population de leur commune. C'est ce qu'on essaie de montrer à travers le concept de politique de peuplement. C'est notamment à toutes ces personnes-là que ça va profiter. C'est comment un projet de transport permet d'accumuler de la rente immobilière. Et comment aussi ce projet de transport, est-ce qu'il peut permettre d'envisager ? C'est pas sûr que ça marche, on pourra en reparler dans le débat. C'est pas parce que c'est le projet que ça veut dire que ça va marcher, notamment parce qu'il y a un peu une crise immobilière en ce moment quand même. C'est par ce projet de transport qu'on peut envisager la gentrification de la Seine-Saint-Denis d'espaces qu'on pouvait pas imaginer gentrifier jusqu'ici, en tout cas.
La France change. On s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires. Tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Élysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49, répression. Ouvre-feu, dépassé, ta cinquième république a pris un coup de vieux. Le ras-le-bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux, 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 est-ce que rien n'amène à la démission. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement illégitime depuis le nom, la constitution européenne. Schizophrène aux valeurs hypocrites. Stigmatise nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue la mésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au de ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières, ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses, islamophobie à tout va. Ne critique pas Israël, c'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et parle d'égalité des chances. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, n'est pas ton peuple pour la peau qui s'est battu contre l'occupation. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, islamophobie à tout va. Ne critique pas Israël. Idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien. Certains sont morts pour le droit des travailleurs, rappelle-le à Villepin. Contrat première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho. Au premier tour, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent, en sont devenus actionnaires snobs. Les protestations puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à tes voisins. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher. C'est à l'Élysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher. N'oubliez pas que c'est par les urnes qu'est arrivé Hitler. On va nettoyer l'Élysée au Karcher. On va nettoyer l'Élysée au Karcher. On va nettoyer l'Élysée au Karcher. N'oubliez pas que c'est par les urnes qu'est arrivé Hitler.
Qu'est-ce qu'une politique de peuplement?
Alors, une politique de peuplement, c'est un concept qui a été lancé, qui a été lancé par des politistes. C'est l'idée de politiques urbaines, enfin qui en fait qui sont pas directement sur la, qui n'agissent pas directement sur la population, mais qui en fait sont des politiques urbaines qui visent à modifier la population d'un quartier ou d'une ville. Et si vous voulez, historiquement, les politiques de peuplement, ça peut être des politiques de déplacement forcé. Ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir favorisé le fait de faire des grands ensembles dans des communes ou du logement social dans des communes communistes. C'était une manière de maintenir un électorat communiste. C'était une politique de peuplement. Ça ne va plus trop dans ce sens-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques de peuplement qui sont plutôt des politiques pour changer la population vers le haut, c'est-à-dire d'embourgeoiser, de gentrifier. Enfin, ça dépend comment on l'envisage, qui marche ou qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux sur les politiques de peuplement dans les villes dites en déclin, comme Saint-Etienne, etc., où ça ne marche pas forcément, mais où il y a quand même des politiques qui ont comme effet d'expulser les plus pauvres ou les plus modestes, les plus fragiles, sans forcément qu'ils arrivent à attirer les classes moyennes tant espérées. Les politiques de peuplement, c'est des politiques urbaines qui visent à changer la population. Ce n'est pas forcément par les transports, ça peut être les transports, ça peut être de l'embellissement de l'espace public, ça peut être créer un équipement culturel, par exemple le Louvre-Lens, Beaubourg, etc. Machin. Enfin, il y a plein d'instruments différents pour essayer de faire de l'attractivité résidentielle. Il y a beaucoup de villes en fait, qui sont en crise économique et qui parient sur l'attractivité résidentielle des classes moyennes. Alors ok, on n'est pas dans ce
contexte-là pour le Grand Paris. Hein. Mais en tout cas, voilà, des politiques urbaines qui visent à transformer la population d'un espace.
Créer de nouveaux transports alors que les transports actuels sont défectueux. Est-ce qu'il y a une explication là-dessus ?
Alors, c'est un grand débat. De fait, il y a aussi de l'argent qui est mis dans l'amélioration des transports, du réseau existant, dans le budget de la Société du Grand Paris, avec participation de la région. Mais il y a eu quand même tout un débat, notamment, y compris des urbanistes, des éminents urbanistes spécialistes des transports, notamment Pierre Merlin, qui ont écrit un truc d'un brûlot en disant que c'était n'importe quoi de faire un nouveau réseau et que améliorer les lignes existantes, faire des tramways légers, etc., enfin qu'on pouvait tout à fait améliorer la circulation par des choses beaucoup moins ambitieuses, beaucoup moins coûteuses. Ça fait moins plaquettes promotionnelles, vous voyez. Il y a un choix qui a été fait dans le fait de faire le Grand Paris tel qu'il est là. Il y a quand même donc 200 km de nouvelles lignes et 68 nouvelles gares. Et ces 68 nouvelles gares, elles auront toutes une nouvelle gare, c'est-à-dire une nouvelle infrastructure visible, très futuriste, avec beaucoup de baies vitrées et plein de commerces et tout ce que vous connaissez. Et c'est ça qui fait aussi qu'on détruit des maisons aujourd'hui et qu'on expulse des gens. Alors que les gares de métro actuelles, elles sont souterraines, vous voyez, enfin, ça, on peut y avoir des logements au-dessus, il n'y a pas besoin forcément, voilà. Et il y a des tas d'endroits où ça croise des gares existantes. A priori, il faudrait juste des couloirs de correspondance en plus et basta. Donc là, c'est un choix volontaire en termes d'image. En fait, ce projet, c'est aussi un projet dans la concurrence intermétropolitaine pour dire, regardez, Paris se renouvelle. Paris n'est pas une endormie. Paris se renouvelle. Et on a des super plaquettes promotionnelles. On fait même des expos sur les futures nouvelles gares, etc. C'est quelque chose, un jeu d'image, de marketing urbain, mais à grande, grande échelle, pour vendre ce Grand Paris, déjà, qui n'existe pas, enfin, qui n'a pas vraiment d'existence, et faire concurrence avec Londres, avec les villes comme Dubaï, qui font des projets extraordinaires. Et c'est sûr que si on faisait juste quelques tramways légers, qu'on améliorait les RER, ça ne se vend pas tout à fait pareil pour les investisseurs.
Ça recoupe des questions de riverains qu'on a eues. Moi, je pense que les premières personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce projet, donc c'était à la fin de 2018, donc ça commençait à dater, c'était un collectif de riverains à Aubervilliers qui disait, mais en fait, pourquoi on ne va pas juste creuser une petite bouche de métro à côté de la ligne 12 qui est déjà là, en fait, depuis pas longtemps et avec beaucoup de retard. Pourquoi on va casser une partie du centre-ville pour faire un truc flambant neuf? Et c'est exactement ce que tu dis, pour illustrer de manière plus concrète ça. Mais c'est notamment un problème dans les endroits hyper denses où quand on veut faire émerger un truc translucide au milieu d'une ville, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont devoir partir, quoi, et pas dans des bonnes conditions.
Sur le Grand Paris, on peut en discuter pour ou contre, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi pourquoi c'est un enjeu dans le cadre de l'expropriation, etc. Parce que moi, j'ai toujours été en banlieue, travaillé en banlieue, encore aujourd'hui, et franchement, d'éviter Paris, de contourner Paris, d'avoir créé des lignes tout autour de la ville qui se rejoignent, on n'est pas obligé de pas passer par Paris, ces RER qui sont assez même anxiogènes, je trouve, quand on est dans Paris même. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée, ce Grand Paris. Maintenant, le problème, c'est ce que ça a provoqué en termes d'expropriation. Et je me disais que, puisque c'est des projets publics, les promoteurs qui répondent à cette incitation publique, est-ce qu'ils n'ont pas des obligations, justement, de reloger les personnes qui sont mises dehors? Quelles sont les obligations et comment ça s'est légiféré pour que, justement, il n'y ait pas d'abus? Parce que, en plus, je remarque, ça, c'est un autre point, plus je vais en banlieue, en lointaine banlieue, plus les gens sont pauvres. La proche couronne, déjà, c'est le 21e arrondissement. Après, on va un peu plus loin, mais c'est déjà très gentrifié. Sur tout Paris, sur toute la couronne de Paris, il me semble. Et plus loin, dans la 5e zone, plus éloignée, ça devient de plus en plus pauvre. Donc, on voit vraiment un éclatement vers l'extérieur de la ville.
Par rapport au livre, on évoque deux types d'éloignement de personnes. Il y a des personnes qui s'en vont parce qu'elles ont le malheur d'habiter sur un ouvrage du Grand Paris Express, donc une gare ou des gravats ou des puits d'aération, ou voilà, tout ce qui va être remplacé par une construction en dur de la Société du Grand Paris. Donc ça, c'est les expropriations. Et il y a tout ce qui est indirect, c'est-à-dire les personnes qui sont dans des quartiers populaires qui vont avoir une politique de rénovation urbaine. Donc en fait, on va rénover le quartier, on va détruire du logement social, donc ça fait partie de ce qu'on raconte. Il y a aussi les personnes mal logées qui sont dans des bâtiments qui valent beaucoup plus cher qu'avant et qui vont être revendus sans les habitants et donc qui vont devoir se trouver un autre endroit où habiter.
pour ce qui est des expropriations pures et dures liées aux ouvrages du Grand Paris Express, ça répond à une loi. Tout est encadré par une déclaration d'utilité publique. C'est un peu un rouleau compresseur juridique qui dit bah, vous êtes là au mauvais endroit, il y a quelque chose qui est plus important que vous, qui est d'utilité publique, donc vous devez partir. Et pour partir, on va vous donner un peu d'argent, et puis vous allez partir quand même. Et c'est ce qui est raconté dans le chapitre 1 du livre, c'est bah, tout ce que ça veut dire concrètement pour les gens. On se rend compte que ce n'est pas la Société du Grand Paris qui exproprie directement les gens, c'est un sous-traitant. Cette politique qui est quand même assez violente vis-à-vis de certaines personnes qui ont le malheur d'habiter au mauvais endroit, c'est géré par un sous-traitant, un prestataire, qui va avoir des objectifs chiffrés, qui va devoir virer les gens. Et en plus, quand on questionne les personnes qui travaillent à la Société du Grand Paris, qui nous expliquent en off que les réunions, ça se passe pas super bien parce qu'ils sont pas super d'accord sur la manière dont ça va se passer, vous imaginez bien la sous-traitance que ça peut faire sur ce type de dossier. Finalement, voilà, c'est des personnes qui sont poussées à partir très très vite et on se rend très vite compte que les personnes qui peuvent se défendre juridiquement parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils comprennent le français, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, notamment bah, en petite couronne dans des quartiers populaires, et ben, les personnes qui n'ont pas ces outils-là, ils ne peuvent pas se défendre, donc ils vont être lésés financièrement et vont devoir partir avec l'enveloppe la plus minime possible. Parce que tout est fait pour qu'ils partent vite et dans les conditions qui arrangent la personne qui va récupérer le terrain.
Donc, les expropriés, on les reloge pas, c'est des personnes qui étaient propriétaires, on les indemnise. Mal, mais après, ils se débrouillent pour se reloger. Éventuellement, s'ils rentrent dans les critères du logement social, on peut leur proposer un logement social. En général, des propriétaires à qui on propose un logement social, ils aiment pas trop. Parce que c'est un déclassement social, en fait. Des gens qui ont investi, même des gens, des petits propriétaires, des gens qui ont mis toutes leurs économies dans la propriété privée, qui pensent s'être sécurisés en étant propriétaires et qui ont comme seul avenir d'être dans le logement social, c'est, voilà, socialement, c'est pas forcément facile. Donc voilà, les relogements, c'est pour les personnes qui sont dans le logement social. Après, je voulais rebondir sur votre autre question, un petit peu de géographie sociale. C'est vrai qu'il y a une logique centre-périphérie avec des gens plus aisés au centre et des gens moins aisés plus loin. C'est pas strictement ça, en fait, hein, la structuration de l'Île-de-France. Si vous allez dans le terminus de la ligne B à Saint-Rémy-les-Chevreuses, la vallée de Chevreuse, tout près du plateau de Saclay, ça va. En fait, il y a aussi quand même plus ou moins le contraste est-ouest, c'est-à-dire que quand on va loin à l'ouest, au sud, c'est quand même plus aisé que quand on va loin au nord et à l'est, hein, qui est l'héritage lointain de la partition est-ouest de Paris, que la gentrification a effacé. Hein. Et par ailleurs, c'est pas seulement une question centre-périphérie, c'est une question d'accessibilité. C'est-à-dire que les espaces les plus pauvres sont aussi les moins accessibles. D'où le fait qu'un projet de transport, ça va forcément modifier la composition sociale. C'est-à-dire que les espaces les plus accessibles vont être les plus chers. Et là, ils vont l'être d'autant plus que dans ces nouveaux quartiers de gare, juste pour planter le décor, 68 nouvelles gares, il y a un périmètre de 800 mètres autour des gares, 10 minutes à pied, autour de chaque gare, qui est en droit de préemption renforcé pour qu'on puisse faire des projets urbains. La surface cumulée de sous ces quartiers de gare, c'est une fois et demie celle de Paris. Donc, vous voyez ce que c'est, le terrain qui est ouvert aux promoteurs, là. C'est énorme, en fait. En termes de projection immobilière, c'est énorme. Et c'est aussi parce qu'on fait des projets urbains spécifiques pour densifier, pour créer des logements neufs. Il y a la loi du Grand Paris, donc, qui date de 2010, qui dit qu'en Ile-de-France, on doit créer 70 000 nouveaux logements. Logements, hein, pas logements sociaux, rêvez pas. 70 000 nouveaux logements. Qu'est-ce que c'est des nouveaux logements? C'est des logements neufs privés en accession, donc inaccessibles aux classes populaires, inaccessibles à une partie d'entre nous aussi certainement. 70 000 logements neufs par an. Bon, le truc n'est pas atteint, hein, mais en tout cas, c'est essentiellement dans ces nouvelles gares notamment qu'on a des espaces pour les créer, ces nouveaux logements. Et toute la question qu'on pose, hein, et j'espère que ça reviendra dans le débat un moment, c'est quelle est la place du logement social là-dedans? Alors, il y a une obligation de créer du logement social, oui. Il y a une loi qui s'appelle Solidarité et Renouvellement Urbain qui a été récemment, qui sera bientôt remise en cause, mais qui malgré tout, de toute façon, n'est pas appliquée dans pas mal de communes, y compris en Ile-de-France, hein, qui impose 25% de logements sociaux, ce qui n'est pas suffisant pour loger tous les demandeurs de logements sociaux par ailleurs. Hein. En Ile-de-France, aujourd'hui, il y a 783 000 demandeurs de logements sociaux. Pas des personnes, hein, des foyers. 783 000 foyers qui demandent des logements sociaux. C'est énorme. Il y a une personne sur 10 qui obtient un logement social chaque année, enfin, parmi les demandeurs.
Donc on n'est pas prêt de d'écluser toute cette demande. Et vu qu'il y a à la fois crise en termes de pouvoir d'achat, de hausse des prix du logement, etc., il ne cesse d'y avoir de plus en plus de demandeurs. Donc on est dans une sorte d'inflation des demandeurs de logements sociaux. Et à côté, la production est insuffisante. Donc il y a une obligation, certes, c'est les 25% de logements sociaux. Mais il n'y a pas le moyen vraiment contraignant pour obliger les communes qui ne veulent pas le faire. En revanche, et on pourra en parler plus tard si ça vous intéresse, maintenant il y a des moyens contraignants pour empêcher des communes de faire du logement social.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel et on poursuit avec la présentation du livre « Les naufragés du Grand Paris » présenté par les autrices Laura Vosick et Anne Clerval.
Bonjour, je vais beaucoup sur le bateau de Saclay et je voulais savoir si vous aviez aussi interrogé la question de la relation à l'environnement, de l'impact environnemental que pouvaient avoir ces constructions.
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, mais moi je voulais savoir la place que vous avez accordée à la rhétorique de la Société du Grand Paris et des acteurs associés sur les questions d'inclusion et d'impact pour les populations précaires des quartiers de gare. Question un peu sous-jacente, mais vous avez aussi commencé un peu à y répondre avec la question de la préemption, si vous étiez intéressé au rapport des gens qui travaillent à la SGP ou qui travaillent dans les acteurs associés, qui sont plutôt des diplômés actifs, parfois de gauche, à ces questions-là.
Bonsoir. Je me posais la question du Grand Paris Express par rapport à l'Europe. Est-ce que c'est un modèle pionnier, ou alors est-ce que le Grand Paris Express concurrence d'autres villes en Europe, pardon, ou alors est-ce que ça s'inspire ?
Je prends une dernière question et puis voilà. J'avais une question qui est en lien aussi avec l'action sur la Société du Grand Paris. Qu'est-ce qui, selon vous, est propre au fait de donner une compétence comme celle-ci à une institution qui est complètement en dehors du jeu démocratique, qui n'a aucun élu, qui, je veux dire, ça, c'est quand même une différence par rapport à d'autres projets d'infrastructure qu'on voit ailleurs. Est-ce que dans les procédures d'expulsion, par exemple, que vous avez vues, est-ce qu'il y a des effets propres à cela ?
Alors, sur l'environnement, c'est une vraie question. En soi, on devait être vraiment cadré sur l'aspect social, parce que déjà, ce sujet, il est tellement pharaonique, énorme. Il faut tellement se former à tellement de questions. Ça recoupe des politiques publiques. Vraiment, c'est un très gros morceau. Donc, franchement, s'il y a quelqu'un qui veut préparer un livre sur l'environnement et le Grand Paris Express, allez-y. Je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a énormément de luttes qui se sont mises en place, notamment autour du plateau de Saclay, qui ont recoupé d'autres luttes aussi. Je pense à Europa City, tout ce qui a eu lieu. Et à Aubervilliers, surtout, on en parle. On en parle du fort d'Aubervilliers, du jardin des vertus, des jardins ouvriers. Et pour le coup, oui, on a cet aspect-là à cet endroit-là, où on laisse la parole à des personnes qui disent que si on leur enlève leur jardin, déjà, elles vont crever la dalle et crever de chaud, ce qui est quand même important. Mais il y a énormément d'autres endroits où cet aspect-là, il doit être questionné, oui, bien sûr. Sur la SGP, il se trouve que j'ai été en contact avec énormément de travailleurs et travailleuses de la SGP. qui sont des diplômés de cursus similaires aux miens, à peu près. Des personnes que je connais très bien qui ont fait part de leurs doutes, que j'ai interviewé beaucoup en off. Je trouve qu'on a plusieurs personnes en off qui racontent un petit peu l'intérieur de la SGP. À certains endroits du livre, on leur laisse la parole pour notamment voir un peu les dissensions internes et le manque de cohérence de certaines réunions et sur des choses qui touchent de près aux expropriés d'Aubervilliers. Donc ça infuse un peu tout le livre et je pense que le fait d'avoir des personnes internes à la SGP qui me donnent leurs ressentis, qui me donnent leurs questionnements, qui vont assez mal à certains endroits, ça a légitimé un petit peu la volonté de faire ce livre. Mais c'est pas un livre sur la société du Grand Paris en fait. Parce que la société du Grand Paris, c'est juste un petit caillou dans un océan de cailloux, de problèmes qu'on a dans notre chaussure. C'est vraiment une partie du problème. Et en plus, ils sous-traitent beaucoup à une autre société pour les expropriations. Donc, on leur laisse la parole quand ils sont concernés, c'est-à-dire sur certaines expropriations. Après, on laisse la parole à beaucoup d'autres acteurs institutionnels et élus. On a plein de communes, on a pas mal d'élus de plein de communes où on a travaillé. Et voilà, on a une pluralité de voix qui s'accompagne autour des expropriés, des expulsés eux-mêmes. Donc on a d'autres voix au chapitre dans le livre.
On n'a pas vraiment travaillé spécifiquement sur la rhétorique de la SGP, mais en revanche sur les discours des élus ou de tous les gens qui défendent, et notamment des promoteurs du projet du Grand Paris, ils disent tous qu'ils favorisent la mixité sociale. De toute façon, la mixité sociale, ça sert à défendre tous les projets dans tous les sens. Donc voilà, on pourra y revenir. Bon, sur la question du modèle pionnier ou pas en termes de transport, moi je ne suis pas spécialiste des transports, donc je ne sais pas assez bien qu'est-ce qui a été fait dans d'autres villes. Ce que je sais, c'est que pour les JO de Londres, en 2012, il y a eu une nouvelle ligne de métro exprès qui a été faite pour le quartier des JO, qui était typiquement un modèle de gentrification planifiée. Ça veut dire une ligne financée par le public pour permettre des intérêts privés. Donc après, c'était sans doute pas autant de lignes que ce qui se passe là avec le Grand Paris Express. Mais c'est intéressant qu'il y ait cette histoire des JO parce que vous savez que le Grand Paris Express a aussi à voir avec les JO, même si ça dépasse ça. Et il y a aussi une pression de temps pour que certaines lignes clés soient faites à temps pour les JO. Alors, le fait qu'on donne à la SGP, la Société du Grand Paris, donc qui est une société d'État, en fait, qui est dominée par l'État, c'est la SGP qui produit le Grand Paris Express et qui est effectivement une société non démocratique. C'est une société qui obéit à l'État. Bon, par exemple, à Londres, pour la création du quartier de Stratford pour les JO de Londres, c'est typiquement de l'urbanisme néolibéral. Là, nous, on est dans quelque chose d'un peu différent, mais quand même aussi de quelque chose qui échappe à la démocratie, on en reparlera après. C'est-à-dire qu'il y a cette urgence, donc c'est un mélange d'acteurs publics, privés, des promoteurs, etc., pour faire advenir à la fois la ligne et le quartier, et que ce soit le plus rapide possible. Et il y a l'argument de l'urgence, il est fondamental pour réussir à faire aboutir des projets qui n'obtiendraient pas le consensus démocratique. Bon, là, il y a un peu ça quand même là-dedans. Mais il faut bien dire quand même que les élus qu'on a pu voir, etc., enfin, il y a quand même un consensus sur même si c'était pas la SGP qui faisait le truc. Il y a un consensus, notamment droite-gauche. Si vous voulez, c'est la droite qui a lancé le Grand Paris dans sa forme actuelle. Mais quand Hollande a été élu et que donc il y avait l'État, la région, la ville de Paris qui étaient aux mains du Parti socialiste et de ses alliés, ils étaient tout à fait d'accord aussi. Ils ont un peu changé quelques éléments, le budget, etc. Mais ils ont fait ce qu'ils ont appelé le nouveau Grand Paris. Et en fait, c'est eux qui ont fait aboutir le Grand Paris. C'est sous Hollande. Il y a un consensus total sur les objectifs en termes d'investissement, en termes de rayonnement international, en termes de renouvellement par le logement. Ça fait consensus. Et ça se voit aussi au niveau local, c'est-à-dire que la plupart des mairies se servent, qu'elles soient de droite ou de gauche dans les banlieues populaires, se servent du projet pour aider à renouveler leur population, c'est-à-dire à la transformer, c'est-à-dire à essayer de favoriser la gentrification. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. Et il y a quelques maires qui essaient de ne pas le faire. Mais la plupart sont quand même tous d'accord sur le fait que la mixité, c'est mieux et que donc faire venir des gens plus aisés dans les quartiers populaires, ça va aider leur ville. C'est pour ça que je dis que oui, c'est en dehors du jeu démocratique, mais le jeu démocratique actuel, si tant est qu'on puisse parler de démocratie, il va dans ce sens-là aussi. Enfin, il y a un consensus, il y a une sorte même, c'est pas un consensus. Pour moi, il y a une pensée unique en urbanisme autour de la mixité sociale qui est très problématique et qui est pas interrogée. Et aujourd'hui, en ce moment, le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF-E, pour l'écologie, qui va être voté l'été prochain, donc qui a été piloté par une région de droite, comprend quand même dans son projet une mesure anti-ghetto qui est d'interdire les communes qui ont plus de 30% de logements sociaux d'en produire plus. Et Pécresse appelle ça des logements très sociaux. Les logements très sociaux, pour elle, c'est les PLAI, c'est-à-dire les très sociaux, et les plus, qui sont en fait les logements sociaux. Elle croit que ça, c'est du logement très social. Et donc, s'il y a plus de 30% de ce que les associations de droit au logement appellent du vrai logement social, il y aurait plus le droit d'en produire plus. Or, aujourd'hui, vous avez soit des communes qui en ont moins, qui ne veulent pas en produire, soit des communes qui ont effectivement 30% et qui veulent continuer d'en produire. Vous voyez, on en est là. C'est donc on en est avec un gouvernement qui veut vider de son sens la loi SRU, qui de toute façon ne suffit pas. Et de l'autre côté, des vraies mesures, mais qui sont déjà en fait en vigueur. C'est-à-dire que la région a déjà arrêté depuis 2015 à financer les logements sociaux dans les communes où il y en avait plus de 30%. Et l'ANRU, donc l'Agence nationale de la rénovation urbaine, interdit aux communes qui mènent des projets de rénovation urbaine de reconstituer l'offre démolie. Elle impose des démolitions, il y a des démolitions, et les nouvelles offres qui sont créées pour remplacer ces logements sociaux n'ont pas le droit d'être dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans des communes comme Saint-Denis, ça veut dire qu'on ne peut pas en faire à Saint-Denis, en fait, parce qu'il n'y a pratiquement que des quartiers prioritaires de la ville, de la politique de la ville. Donc en fait, aujourd'hui, il faut bien voir qu'au nom de la mixité sociale, on n'arrive pas à imposer des logements sociaux dans les communes riches, et on n'y arrivera pas en fait, il faut juste arrêter de rêver, enfin il faut faire un autre régime politique. Et de l'autre côté, en revanche, on arrive à empêcher des communes qui ne sont pas d'extrême gauche, hein, mais qui veulent continuer à faire du logement social, et qui doivent se battre pour essayer d'en faire, et qui n'arrivent plus à en faire. Voilà où on en est, alors qu'on a 783 000 personnes qui attendent d'en avoir.
Et vous allez, dans ce livre, pouvoir voir des propos assez amusants sur cette mixité sociale. Des élus communistes qui arrivent à dire la mixité sociale, dans une phrase, hein. La mixité sociale, de toute façon, c'est super. Et en fait, non, en fait, au fond, je déteste ça. Il y a un consensus sur cette question-là. Des élus du même bord politique qui sont même plus d'accord entre eux. Il y en a qui osent le dire, il y en a qui osent pas le dire. Et en fait, c'est ce qu'on questionne beaucoup en fait dans notre bouquin, et je pense que c'est intéressant aussi d'étudier cette question-là. En fait, qu'est-ce que veut dire la mixité sociale, et surtout qu'est-ce que les personnes qui en subissent les conséquences ou qui en voient les opportunités en pensent. Et je trouve que ça fait une vingtaine d'années qu'on ne questionne plus cette question-là et qu'on nous la ressort à toutes les sauces. Et en fait, voilà, il y a quand même des questions à se poser, notamment quand il y a un nouveau métro qui arrive à côté et que ça veut dire des bouleversements. Et des opportunités énormes à cet endroit-là.
Moi, j'avais une question par rapport au contenu de votre livre, sur les chantiers, parce que vous parlez de l'impact sur les gens qui résident là où il y a les chantiers du Grand Paris Express. Il y a aussi un énorme problème en termes de paupérisation des populations. C'est le recours, enfin les chantiers du Grand Paris Express, ils font massivement appel à l'emploi précaire. Enfin, tous les acteurs et actrices de l'insertion dans les banlieues sont sollicités, pousser les personnes en situation de précarité à accepter des emplois précaires dans le bâtiment, enfin dans la construction, enfin dans les chantiers du Grand Paris, où il y a, je crois, eu pas mal d'accidents, hein, parce que des personnels non formés à creuser des tunnels, forcément ils se blessent assez vite. Enfin, du coup, il y a des conséquences aussi sur l'emploi, sur la dévalorisation de l'emploi, qui s'adresse en plus à des personnes qui vont elles être reléguées effectivement en plus lointaine banlieue encore. Donc je voulais savoir si le livre abordait cette question-là.
Par rapport à votre question, si je peux me permettre, la solution, c'est d'acheter le bouquin.
Parmi ces naufragés, justement, est-ce qu'il y a des gens qui se sont organisés pour résister contre, justement, le Grand Paris Express ?
J'ai deux questions, du coup. La première, c'est il va y avoir un appel d'air, du coup, en banlieue, parce qu'on va créer de nouveaux logements, ou du moins, on crée une offre résidentielle enviable, on va dire. Donc déjà, à destination de qui ? Je veux dire, est-ce que c'est pour les habitants de Paris qui n'ont plus les moyens de tenir ? Quelle classe ? Ou est-ce que ce sont des habitants de province, d'autres pays ? Je ne sais pas, c'est une question un peu naïve. La deuxième, mais qui est un peu liée, en fait, c'est du coup ces populations qu'on va mettre toujours plus loin. Donc les habitants qui ont toujours habité la banlieue, qui ont toujours galéré, et qui finalement, à cause de l'augmentation des prix du loyer, vont devoir aller plus loin, toujours plus loin, peut-être même jusque dans le périurbain. Qu'est-ce que se dit le gouvernement, ou du moins les politiques, en fait, quand ils font ce type de... de politique, parce qu'en fait, on peut penser par exemple aux Gilets jaunes ou autres, qui ont été la France périurbaine qui a craqué. On a vu à quel point ça a mis le gouvernement en difficulté. Quand le gouvernement met en place des politiques comme ça, en fait, est-ce qu'ils se demandent si à un moment ça ne va pas leur retomber dessus, parce que finalement, à force de mettre les gens comme ça en marge, de systématiquement les renvoyer, ils se disent pas qu'à un moment ça va craquer. En fait, c'est vraiment ma question qui peut paraître un peu naïve, mais on dirait qu'on va toujours plus loin, on pousse toujours le bouchon un peu plus loin, quoi. Donc je voulais aussi savoir ce que vous en pensez.
Sur les chantiers, les emplois précaires et les personnes décédées, c'est un vrai sujet. Et pareil, il y a eu quelques grands reportages. Je vous invite à écouter le Interception sur le sujet de France Inter, qui parle des personnes décédées sur les chantiers. Les chiffres de juillet 2023 disent qu'il y en a, il y a 5 personnes qui ont perdu la vie sur les chantiers, ce qui est quand même énorme. Il y a eu beaucoup de com à ce sujet. Nous, on ne s'est pas intéressé à ce sujet-là parce que c'est un autre sujet et ça mérite encore une fois une enquête dédiée. On ne peut pas tout faire. Pareil pour la précarité de l'emploi. Je pense qu'il y a une grosse, grosse enquête à faire. Mais pareil, je vous invite à travailler dessus si ça vous intéresse. Alors, la résistance au Grand Paris Express, pour le coup, oui, il y a beaucoup de résistants. Un peu chacun dans leur coin, malheureusement. On a suivi à Aubervilliers, ils ont pas mal tenu tête au Grand Paris et à leurs sous-traitants. Donc on raconte un petit peu les 50 coulisses de cette lutte-là. Mais ce qui veut dire beaucoup s'organiser juridiquement, prendre un avocat, avoir beaucoup de dossiers chez soi. On remarque quand même une constante, c'est que les personnes qui sont expropriées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse à gérer et que c'est un temps fou. Il y a pas mal de gens qui sont décédés. Il y a des gens qui ont divorcé. C'est des vies qui sont juste foutues par terre assez rapidement pour une histoire qu'ils n'ont pas choisi, encore une fois, de vivre. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir suivre sur du temps long. Cette enquête, elle dure 5 ans. Et il y a une raison pour laquelle ça dure 5 ans, c'est que vu que ça prend 3 plombes à se mettre en place et que ces personnes-là subissent pendant longtemps, c'est important aussi de suivre les destins de ces personnes sur du long terme. Mais du coup, oui, ça s'organise surtout à l'échelle individuelle. En fait, on a eu des solidarités de voisins à Aubervilliers sur l'îlot Ferragus. Mais en fait, on se rend compte que le temps passe. Les gens, il y en a certains qui meurent, il y en a certains qui partent, il y en a certains qui acceptent des enveloppes. Donc en fait, les solidarités, elles s'étiolent un petit peu au fur et à mesure. Des personnes à Bondy qui ont décidé de lutter, qui en sont jusqu'à aller à la cour de cassation, si je ne me trompe pas, pour ne pas partir. Et ça, c'est pareil, c'est des vies qui sont bouleversées, c'est des personnes âgées qui consacrent toute leur existence à ça, en fait. Enfin, et quand on a 80 ans, je pense qu'on a autre chose à faire que de lutter contre le Grand Paris. Il y a aussi des locataires à Gennevilliers qui se sont bien organisés, avec une personne qui était à la tête de ça, qui travaillait avec le DAL. Donc le DAL accompagne pas mal de ces luttes-là. On les a suivies à Romainville et à Gennevilliers. Au travers de cette mobilisation avec le DAL, ils ont réussi à obtenir des relogements dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes que ce qui leur était proposé à la base, c'est-à-dire des loyers plus abordables, des garanties de reste à charge moins importants et des relogements à conditions égales dans un quartier où ils ont toujours vécu. Mais il a fallu se battre pour ça, parce que sinon, ils n'avaient pas accès à ces conditions de relogement. Et ce qui est important, c'est peut-être la seule victoire qu'on raconte dans ce livre, c'est que le maire de Gennevilliers était volontariste et c'est lui porté garant pour que cette lutte-là fonctionne. Et il y en a peu des élus qui se donnent à ce point pour que ça aboutisse. Et en fait, juste la couleur de la municipalité va compter pour ces luttes-là. Donc on peut lutter, mais il y en a beaucoup qui ont lutté dans le vide. À Aubervilliers, c'est le cas, par exemple. Et encore une fois, il faut pouvoir distinguer les luttes d'expropriation et le relogement dans du social pour des expulsions dans du social parce qu'ils sont à côté de la gare. Et c'est sûr que les expropriés, étant de petits propriétaires, vont être moins peut-être accompagnés par la puissance publique que des personnes qui sont dans du logement social. Et là, pour le coup, c'était en plus le bailleur de Gennevilliers, donc le bailleur public.
Ok, juste, je vais me permettre de faire la promo d'un autre livre, qui n'est pas à moi, je n'ai pas participé, mais qui est vraiment, à mon sens, complémentaire du nôtre. Je vous le recommande vivement, il est super bien, c'est Tenir la ville par le collectif Asphalte. C'est des chercheurs et des militants, enfin des chercheuses aussi, des militantes, et hyper bien fait. C'est des réflexions sur les luttes urbaines et les résistances urbaines, et c'est vraiment à la fois des récits de certaines luttes, mais il y a aussi toute une réflexion stratégique qui est vachement bien faite, et notamment pour des gens qui veulent lutter contre... Il y a des choses sur la rénovation urbaine, par exemple. Nous, on parle de pas mal de projets de rénovation urbaine, parce qu'on parle de maires qui utilisent l'ANRU de façon stratégique parce qu'il y a une future gare et qu'ils disent « Bon, bah, on va avoir des financements en rue et on va démolir du logement social pour faire venir des logements privés à un endroit où là, ça peut vraiment prendre parce qu'il va y avoir une gare, en fait. » On analyse pas mal ça et il y a beaucoup, beaucoup d'expulsions qui passent par, en fait, l'ANRU dans des quartiers de gare. Et donc, je trouve que ce livre, il est vraiment très complémentaire et je vous le recommande vivement. Sinon, moi, je voulais réagir sur la question de l'offre résidentielle. Alors, pour qui ? Effectivement, dans ces nouveaux quartiers de gare, il va y avoir énormément de logements neufs en accession à la propriété. C'est ça qui va être en majorité, qui va sortir de terre. Certains sont déjà sortis de terre. Bon, là, on est en pleine crise immobilière. Ils ont du mal à vendre, etc. Donc, la question de la réussite de ce projet se pose. Hein. Enfin, c'est pas parce que là, on démontre que c'est une politique de gentrification qu'elle va aboutir. Vous savez, il y a énormément de bureaux vides en Île-de-France. On en construit aussi dans les quartiers de gare. Il est possible aussi qu'il y ait des logements qui ne se vendent pas. Enfin, ça reste encore à voir. Mais en tout cas, s'ils se vendent, ça s'adresse à des gens déjà qui peuvent accéder à la propriété dans du neuf. Alors certes, au Fort d'Aubervilliers, c'est des prix qui sont bien moins élevés que dans des banlieues aisées. Hein, donc ça s'adresse à des gens qu'on dirait classe moyenne. Bon, moi, je parle plutôt de classe d'encadrement, mais en tout cas, des gens qui sont dans des positions intermédiaires en termes de revenus et de diplômes. C'est beaucoup des Parisiens. Hein. Par exemple, si vous prenez l'opération des docks de Saint-Ouen, qui est assez représentative de ce genre de choses, à proximité de l'extension de la 14... C'est essentiellement des Parisiens, alors que la mairie voulait qu'il y ait des Audoniens qui achètent. Bon, en fait, c'est essentiellement des Parisiens qui achètent. Des Parisiens, ça veut rien dire. C'est des Parisiens cadres, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, le profit du Parisien, c'est le cadre. Et ça peut être aussi éventuellement des gens de province, parce que Paris est une centrifugeuse et qu'il y a des gens qui arrivent et que donc des gens qui mettent du même profil. Ce qui compte, c'est pas tellement d'où ils viennent, qu'ils soient Parisiens, étrangers ou de province, on s'en fiche. Mais a priori, c'est des gens qui ont un niveau cadre, profession libérale et qui peuvent acheter. Dans du neuf, quoi. Voilà. Après, il va y avoir toute une gradation entre ceux qui vont acheter à Fort d'Aubervilliers et ceux qui peuvent acheter en banlieue ouest. Évidemment, ça ne va pas être les mêmes, parce que c'est plus cher en banlieue ouest. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les classes populaires, parce qu'elles n'ont pas accès, ne serait-ce qu'au crédit immobilier, en fait, pour commencer. Après, la question de ceux qui partent, où vont-ils ? On a cette image, et eux-mêmes, dans le livre, il y a beaucoup de paroles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les gens qu'on a rencontrés, ils ont une claire conscience d'être évincés et que le Grand Paris est injuste. Enfin, c'est intéressant, le sentiment d'injustice, il est très présent. C'est pas des gens qui ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et voilà. Et donc, ils le disent très clairement, le Grand Paris, c'est pas pour nous. Certains le comparent aux travaux d'Haussmann, au fait que déjà, on a viré les pauvres à l'époque, etc. Enfin bon, c'est intéressant. Et c'est vrai que dans les discours de ces personnes, ce qui revient, c'est d'être toujours plus loin. On va plus avoir le métro, on va être au RER. On va plus être au RER, on va être encore au-delà. Et c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas que des gens qui vont aller plus loin, c'est des gens aussi qui vont aller dans les dents creuses. Comme je vous l'ai dit, c'est pas que une question. En fait, c'est pas une question de distance physique, c'est une question d'accessibilité. Ils vont dans des espaces peu accessibles. Les espaces peu accessibles, ils peuvent être près de Paris. Mais c'est juste qu'il n'y a pas le métro, c'est difficilement accessible. Ou ils peuvent être effectivement très loin, et même au-delà de l'Île-de-France. Aujourd'hui, il y a de l'accession populaire à la propriété en Picardie, aux franges de l'Île-de-France, avec une très forte dépendance automobile et avec effectivement des profils comme ceux qu'on a pu retrouver dans les Gilets jaunes. Alors maintenant, savoir si les responsables politiques se rendent compte de ce qu'ils font, c'est très compliqué de répondre à cette question puisqu'on n'est pas dans leur tête. En tout cas, ce qu'on peut constater actuellement, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre. Hein. Enfin, quand même, je pense que... Le gouvernement qu'on a, on voit quand même que c'est assez clair que ce qu'on nous dit, c'est les gens crèvent de faim, on s'en tape. Nous, ce qu'on fait, c'est une politique pour que les actionnaires continuent à engranger du fric. Et c'est dit, enfin, c'est pas dit comme ça, mais presque. Hein. Quand même, on a un ministre du Logement qui dit qu'il veut faire un choc d'offres pour les propriétaires. Enfin, il dit quand même clairement que ce qu'il veut faire, c'est défendre les intérêts des propriétaires. Donc savoir qu'à cause de ça, il y a des gens qui sont mal logés ou qui sont à la rue, parce qu'on en est là, enfin, et qu'il y a des enfants à la rue comme jamais, et qu'on a explosé les chiffres de gens qui sont à la rue, il n'a pas un mot pour ça, et l'urgence pour lui, c'est de défendre les droits des propriétaires. Donc je pense que vraiment, savoir si ça peut leur revenir dans la gueule plus tard, ils n'en ont rien à faire. Ils savent qu'ils ont une police qui pourra défoncer les gens, et ce n'est pas un problème. Enfin, voilà. Mais après, on n'est pas dans leur tête, hein, donc on ne fait pas une enquête là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut analyser les effets objectifs de ces politiques, qu'il y ait un discours de revanche sociale, comme c'est le cas au gouvernement aujourd'hui, ou qu'il y ait des discours plus ou moins de gauche, de maires de gauche, enfin, officiellement, avec l'étiquette, qui ont des discours beaucoup plus enrobés sur la mixité, sur le fait qu'on ne peut pas laisser comme ça les pauvres tout seuls, qu'il faut arrêter quand même de concentrer la pauvreté au même endroit, etc., qui ont les mêmes effets. Donc il faut faire attention aussi, c'est pas qu'une question de discours politique. Si on analyse les effets objectifs d'un projet, on peut voir ce que ça donne. Et ça donne effectivement l'éviction, le délogement, le déplacement. Ce qu'il y a là, c'est un livre sur le déplacement des classes populaires à cause du projet du Grand Paris Express.
Plutôt pour vous, Madame Clerval, vous ouvrez Paris sans le peuple
avec une citation, vous l'introduisez avec une citation de Louise Michel à propos de la Commune de Paris. Là, on parle d'Haussmann, de police, des perspectives pour précipiter ou imaginer une commune du Grand Paris ou une intercommune du Grand Paris.
C'est de la curiosité, mais est-ce que vous qui avez été en contact des gens expulsés pendant tout le long de l'étude, est-ce que vous avez eu l'impression que l'enveloppe, les indemnités financières, ça les calmait assez rapidement, ou est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui se disaient bah, il faut vraiment que ce soit un peu plus...
Je voulais savoir si le préjudice moral était pris en compte par les tribunaux lorsqu'ils sont saisis pour indemniser des gens qui occupent leur maison depuis parfois plus de 30 ou 40 ans.
Alors, une commune du Grand Paris, je ne vais pas répondre à la question, mais en revanche, ça me permet de vous dire que dans ce livre, par rapport à Paris sans le peuple, on s'est un peu permis d'aller un peu au-delà de la seule analyse dans l'épilogue. On n'en a pas fait un chapitre, mais c'est un petit chapitre, le dernier chapitre. Il s'appelle « Un autre Grand Paris est-il possible ?». Donc là-dedans, il y a pas mal de pistes qui sont à la fois le rappel que le Grand Paris, au départ, est une idée de gauche, qu'elle date de l'entre-deux-guerres et que c'était l'idée de faire de la péréquation fiscale entre Paris et les banlieues qui se construisaient. Donc pour tout ce qui est les services publics, les hôpitaux, et y compris le logement social déjà à l'époque. Je ne vous cache pas que c'est plus une réflexion sur les obstacles au droit à la ville aujourd'hui dans le Grand Paris que sur sa réalisation. Mais il y a aussi une réflexion sur, qui est un peu un défi sur le droit à la ville et sur l'autogestion de la ville. Comment on pourrait autogérer une ville comme le Grand Paris ? Voilà, j'en dis pas plus parce que je préférais que vous lisiez le livre, mais c'est un peu, il y a cette idée-là. Alors, commune du Grand Paris, je sais pas, mais en tout cas, avoir une réflexion sur qu'est-ce que ça voudrait dire se débarrasser de l'État et du capitalisme dans le Grand Paris, il y a quelques pistes dans le livre, voilà. Pour que ce soit pas que déprimant, quand même.
Alors, comment rebondir là-dessus ? Est-ce qu'il y a des indemnités pour calmer les gens ? Est-ce qu'ils se calment après leurs indemnités ? Non. En général, les enveloppes sont extrêmement sous-évaluées par rapport à la situation. C'est souvent basé sur année moins 1, 2... C'est très technique. Les indemnisations ne prennent pas en compte toutes les évolutions de la ville. En gros, c'est les prix des domaines à une année précise qui n'est pas l'année en cours et qui ne prend pas en compte... Par exemple, à Aubervilliers, c'est très intéressant, il y a eu l'arrivée de la 12... Et l'estimation de ce qui allait leur être donné était bien avant cette histoire de 12. Donc il y a eu toute une histoire de calcul en fonction de l'arrivée des nouveaux transports. Bref, tout est fait pour que ces personnes-là soient indemnisées le moins possible. Et en général, elles ne sont pas contentes par rapport à ce qu'on leur propose. Après, il y a un peu des techniques d'urgence, de coups d'accélérateur qui sont mises en place par le prestataire de la SGP pour que ces personnes-là aient peur et partent plus vite. Mais à des conditions qui ne sont pas acceptables. Et on se rend compte que les personnes qui partent à des conditions plus acceptables, c'est celles qui ont eu le temps, l'argent, les moyens et la possibilité d'aller pousser jusqu'au juge de l'expropriation. Et donc parfois, ça prend 5, 6, 7 ans, en fait, entre le moment où ils partent et le moment où on leur a dit qu'il fallait partir. Les personnes qui partent en étant contentes, c'est celles qui ont les moyens de base de pouvoir lutter, en fait, à bras égal. Et bon, c'est jamais vraiment à bras égales, mais voilà. Et le préjudice moral n'est pas pris en compte. Et on a un avocat qui l'explique très bien dans la fin du chapitre 1, pourquoi. Donc non, ça fait pas partie de ce qui est indemnisé. Il y a des personnes, justement, qui imputent le décès de proches au Grand Paris. Évidemment, on peut jamais dire noir sur blanc que c'est le Grand Paris qui a tué certaines personnes, mais... Il y a des personnes qui ont leur santé qui part en cacahuète, des personnes qui dépriment, des personnes, on a une personne de 90 ans qui est un peu dans le déni par rapport à son départ prochain. Donc ça, bien sûr que c'est pas pris en compte, malheureusement. C'est des belles paroles pour terminer cette présentation. Vous avez d'autres questions, éventuellement ? Eh bien, je vous invite à échanger autour d'un verre rempli. Voilà.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux.
Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.